Midi 39, je pense que ça va être la première fois que ça m'arrive depuis que je fais de la radio, depuis 2006. Je vais avoir une chronique sous un baobab.
C'est ta première fois?
C'est le genre d'arbre que tu peux retrouver en Afrique et l'arbre est bel et bien en place et bien enraciné.
Et dans le Petit Prince.
Ce qui fait en sorte, oui, effectivement, ce qui fait en sorte qu'on a dû déplacer le collaborateur parce qu'on voulait absolument une chronique sous un baobab. C'est Martin Bourget, le chroniqueur chasse-pêche. Comment ça va?
Hey, ça va, vous autres? Ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud ici, là.
Il est quelle heure chez vous, là, en Afrique?
6h30 présentement. Fait que 18h30 le soir. On a 6 heures de décalage, plus 6 heures, en fait, par rapport au Québec.
Puis t'es dans quel pays exactement, en Afrique?
On est en Afrique du Sud. On est complètement au nord de l'Afrique du Sud, dans une province qu'on appelle le Limpopo, dans le secteur du Maastrom. C'est carrément sur la frontière du Botswana, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Donc,
wow.
Complètement au nord de l'Afrique du Sud.
Au bout de l'Afrique, mais au nord de ce pays-là.
Oui. Exactement.
T'es un peu en diagonale avec le Madagascar, c'est ça?
Oui, bien, Madagascar, il faut se descendre un petit peu plus vers le sud, ça veut dire le sud-est. Puis là, ben c'est une île qui est encore au sud-est, là, au bout de la péninsule.
Parle-moi de la misère que tu vis présentement, Martin.
Bien, écoute... Honnêtement, on est super bien. Là. C'est du côté voyage, on est chez Island Safari. Donc ici, juste la bouffe, tu prends 10 livres dans la semaine. Là, et on mange la viande qu'on chasse.
On entend des oiseaux comme le matin, mais il est 18h en arrière de toi. Ça me fascine. Là. On va le remarquer, c'est sûr, dans la chronique. Là.
Ils sont en train de se coucher. Il y a un arbre de marula juste en arrière de moi. Le fruit de marula, donc la marula. Là. Il y a un arbre de marula en arrière de moi. Puis ils sont en train d'aller se coucher dans leur nid qui sont autour de ça. Là.
Okay. Puis il fait déjà noir à 6h en Afrique. Ah oui.
Oui, absolument, absolument. Donc, les journées sont courtes présentement parce que présentement, en Afrique, on est à l'automne. On s'enligne vers l'hiver. Donc, l'hiver va prendre là, à la fin du mois d'avril. Les températures sont en train de baisser ici. Fait que tu vois, même si on est en Afrique du Sud, le matin, présentement, ça nous prend une petite laine sur le dos. Le midi, on va atteindre des 30, 32. C'est très sec, donc c'est très tolérable. Mais le matin puis le soir, là, souvent, on a une petite laine sur le dos. Ce soir, c'est exceptionnel. Il n'y a plus aujourd'hui, ce qui est rare ici. Donc, on a un petit peu plus d'humidité, ce qui fait qu'on ressent un peu plus la chaleur. Mais généralement, là, c'est ça, on s'en va vers l'hiver. Donc ici, la durée du jour abaisse, là, présentement.
Là, tu es avec des Québécois là-bas. C'est quoi votre mission aujourd'hui?
Ben en fait, les Québécois, eux, de leur côté, ils sont à la chasse. Cette année, nous autres, on est ici pour un documentaire sur la conservation. Et honnêtement, on est vraiment choyés parce qu'on a réussi à avoir des journées complètes avec les grosses fédérations qui s'occupent de la conservation en Afrique du Sud, les fédérations qui s'occupent de tout le côté ranching, donc des fermes qui ont le wildlife, donc les animaux qui proviennent d'Afrique sur leur ranch et qui font chasser les chasseurs internationaux. Écoute, juste aujourd'hui, on est allé passer la journée dans le parc national de Mapungubwe, qui est à peu près à 1h40 d'ici, avec une PhD qui est en train de faire un PhD sur l'interrelation qui existe entre les baobabs et la surpopulation d'éléphants là-dedans. On avait déjà parlé en ondes de ça. D'ailleurs, ça existe dans le parc Kruger. Mais honnêtement, jamais je pouvais penser que c'était à ce point-là. Nous autres, on pensait que les éléphants mangeaient un petit peu d'arbres, ça nuisait aux autres espèces. On arrive dans le parc là-bas, puis tous les marulas, tous les acacias sont tous disparus. Les seuls végétaux qu'on voit, c'est les végétaux qui étaient en sous-étage dans l'énorme forêt qui existait dans le temps. Et les baobabs commencent un par un, des baobabs de 2000 ans qui sont morts. C'est un tas de fibres à terre. Ce sont les éléphants qui sont surnuméraires dans le secteur parce que, selon la PhD, eh bien, il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de contrôle et évidemment, les éléphants sont protégés par les gros organismes de conservation d'espèces de la planète, ce qui fait qu'ils détruisent complètement l'écosystème, la biodiversité. Alors, les oiseaux, pour la nidification, n'ont plus d'arbres. Il y a des espèces d'arbres qui disparaissent dans ce parc national-là. Il y a des animaux qui ne fréquentent plus ce parc-là du tout ou qui sont tout simplement morts. Ça met en péril la biodiversité des grands parcs nationaux ici. Et ils identifient très clairement ici que l'absence de chasse envers ces gros animaux-là est en grande partie responsable. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est tous ces travaux de recherche-là, ainsi que les travaux de recherche de ces étudiants qui sont en recherche à la maîtrise, qui font toutes des études qui sont en liaison avec la disparition des baobabs et des autres espèces d'arbres dues au nombre surnuméraire d'éléphants, sont toutes financées par l'Association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud.
Ah oui, wow! Et pour ce qui est des baobabs... Pour ce qui est des baobabs, est-ce qu'ils ont un plan de revitalisation des champs de baobabs? Puis en même temps, ben, s'ils ne font pas ça, j'imagine que les éléphants doivent se déplacer pour en trouver d'autres. Fait qu'il doit y avoir des populations qui sont à risque là, de croiser des éléphants au travers de leur petit village.
Ben là, déjà, puis c'est très localisé, hein, parce que si tu sors du parc, tu vas ailleurs, des baobabs, il y en a en masse. Là. Mais quand tu vas dans les parcs nationaux, là, où est-ce qu'ils préservent les espèces, hein, c'est des endroits où est-ce que le gouvernement préserve les espèces, ben c'est là que c'est problématique.
Pis c'est clôturé,
oui,
ça?
Il y a des plans.
Ils sont clôturés pour ne pas sortir de ce parc national-là?
Absolument,
ah,
absolument.
Oui, okay.
C'est des milieux de conservation gouvernementaux, donc qui tendent à garder les espèces vivantes en Afrique du Sud. Mais là, ça meurt partout à cause de ça, ça meurt. Oui, il y a des plans. Ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont mis des piles de roches à l'entour des baobabs, les éléphants les déplacent. Des piles de bûches, les éléphants les déplacent. Ils n'aiment pas la cayenne, les éléphants. Ils ont fait des poches de poivre de cayenne suspendues après les arbres. À la première pluie, ça part. Le dernier truc qu'ils ont trouvé qui fonctionne très bien, la preuve, c'est que de tous les baobabs qui sont attaqués, les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui ont subi ce traitement-là. Relativement simple, ils prennent la clôture frost, puis ils vont envelopper la base du baobab sur à peu près 12 à 15 pieds de haut. Parce que les éléphants, quand ils rentrent là-dedans, ils arrachent l'écorce, puis une fois que l'écorce est arrachée, ils grugent l'arbre jusqu'au milieu. Puis ils mangent la fibre de l'arbre, littéralement.
Mais
le baobab, là, il y a 2 000... Vas-y.
Ça a-tu toujours été ça, Martin, ou là, il manque tellement de quelque chose que...
Non, non, il y a des gros questionnements par rapport à ce comportement-là en particulier parce que, de manière générale, même quand il y a forte présence d'éléphants, par exemple, au Botswana puis au Zimbabwe, ils ne s'attaquent pas autant que ça aux espèces. Ils vont être beaucoup plus versatiles. Ils vont passer d'une espèce à l'autre. Puis de cette façon-là, un peu comme on faisait jachère dans le temps sur les terres de culture, mais les espèces ont le temps de se régénérer. Là, il ne s'explique pas pourquoi et c'est dans un de ces plans de recherche-là d'essayer de comprendre cette espèce, parce qu'avant, il n'y avait pas autant d'éléphants qui traversaient du côté de l'Afrique du Sud, il y aurait une espèce peut-être d'anxiété, d'adaptation au nouveau territoire, parce que là, les éléphants se sont systématiquement attaqués à, par exemple, tous les marulas. Une fois qu'il n'y a plus eu de marulas, ils sont rentrés dans les acacias. Une fois qu'il n'y a plus eu d'acacias, ils sont rentrés dans les noisetiers. Une fois qu'il n'y avait plus de noisetiers, là, ils sont rentrés dans les baobabs. Puis là, il n'y a presque plus de baobabs. Sur des milliers de baobabs, il en reste quelques centaines de baobabs. That's it, that's all. Le couvert forestier est complètement détruit. Là, ils commencent à manquer de baobabs. Là, ils sont rendus dans les ficus sur le long des ruisseaux et sur le long de la rivière du fleuve Limpopo. Alors là, s'ils tuent les arbres sur le long du Limpopo, c'est toujours un effet en chaîne. Hein. L'ensemble de la biodiversité mange la claque. Parce que si tu tues les arbres sur le long d'une rivière, c'est l'enracinement des arbres sur le long de la rivière qui tient les rives. Alors, tu crées une érosion des rives, fait que tu crées d'autres problèmes, même pour la faune aquatique. Alors déjà que là, si je comprends bien, il est disparu plein d'espèces de végétaux dans ces parcs-là, plein d'espèces d'animaux, plein d'espèces d'oiseaux. Puis là, on va s'en aller sur la faune aquatique qui va être affectée aussi. C'est majeur. Quand tu as un gros indicateur du milieu comme ça qui change sa façon de faire, un éléphant, à la quantité de nourriture que ça mange par jour, ça a des effets collatéraux qui sont majeurs.
Là, avec Kate, tu filmes un documentaire. C'est un documentaire qui est fait par Aventure Chasse-Pêche?
Oui, absolument, absolument. Okay. On va aussi chasser. D'ailleurs, moi, j'ai chassé un Black Springbok, justement pour parler de la génétique des Springboks qui viennent des Kalahari. Demain, je vais chasser un crocodile du Nil. Donc, on essaie de diminuer la quantité de crocodiles dans un secteur en particulier. Donc, on va aller chasser le crocodile du Nil.
Tu le fais-tu à mitaine, comme je t'ai demandé de le faire, pour être l'équivalent d'un Crocodile Dundee?
Sans botte, en plus.
Un couteau suisse.
Non, mais pour vrai, ça doit être dangereux. Martin, t'as-tu... Là, sois honnête et sois pas comme Yannick, là, à dire que tout va bien, faites tough. Mais ça te stresse-tu?
Bon, c'est sûr qu'en face d'animaux de cette ampleur-là, de cette grosseur-là, de cette puissance-là, puis de ce risque-là, il y a toujours de l'anxiété. C'est une bonne anxiété, mais il y a toujours de l'anxiété parce que tu choisis un peu de jouer à une game qui peut être dangereuse des deux côtés. Parce que le crocodile, dans le milieu où est-ce qu'il est, surtout avec la pluie qu'il y a eu les dernières semaines ici, il a l'avantage sur nous autres, même si on a une carabine dans les mains. Il se déplace très rapidement. Il y a énormément de pression. Puis tu sais, un mâle adulte, là, tu peux parler de 6-7 mètres. Ça peut aller jusque-là du 700 kilos. Ça donne pas de chance ben.
Mais pourquoi?
Oui, il y a de l'anxiété par rapport à ça. Ouais, c'est gros. Puis Kate, de son côté, elle voulait se concentrer cette année sur des chasses que les fermiers ont besoin de faire pour maintenir leur ferme debout. Donc, tous les animaux qui affectent les récoltes, les prédateurs qui affectent les plus petits gibiers, etc., elle se concentre là-dessus. Donc, vraiment faire ce que les ranchers ont besoin de faire pour garder l'écosystème de leur milieu en shape, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle va être dans les babouins, elle va être dans les vervet monkeys, elle va être dans les porc-épics si on tombe dessus, elle va être dans plein d'espèces de même qui sont nuisibles pour l'environnement parce qu'ils sont surnuméraires.
Je veux que tu m'expliques, c'est quoi un chien de sang? De quelle façon on les utilise au Québec? C'est quoi les races qu'on utilise au Québec pour les chiens de sang versus ceux que tu as en Afrique? Parce que j'ai vu deux beaux petits Jack Russell avec toi. Là.
Oui, oui. C'est totalement différent. Un chien, c'est un chien. D'abord, on dit chien de sang, mais les chiens, ils roulent sur l'adrénaline. Donc, c'est l'odeur de l'adrénaline. En réalité, on dit sang, c'est plus facile à expliquer comme ça. Au Québec, écoute, les variétés de chiens qui vont faire la recherche de sang en partant des teckels à poil court, à poil ras, qu'on appelle, ou à poil dur, les rouges de Hanovre, les rouges de Bavière. Il y a énormément de races de chiens qui sont utilisées au Québec. Je pense, entre autres, aux drateurs qui vont le faire. Certains griffons vont le faire. Puis, il y a d'autres races de chiens là qui sont pas à la base reconnu comme chien de sang, puis que les gens vont entraîner comme chien de sang, et ça fonctionne très bien. La façon que ça va fonctionner, c'est que le chasseur qui fait un tir dont il n'est pas sûr, idéalement, il va voir sur le lieu du tir, il ne faut pas trop qu'il empiète pour ne pas trop brouiller les pistes, va faire appel à un conducteur de chien de sang. À la base, c'est un service qui est gratuit. On recommande toujours aux gens de donner quand même un bon tip. Le conducteur de chien de sang va se déplacer, va reconstituer la scène, puis à partir de là, il va partir son chien, puis il va l'envoyer. Mais au Québec, il va être au bout d'une laisse, le chien. Ici, les Jack Russell, on les lâche. Puis leur but, quand ils tombent sur l'animal, c'est pas juste de l'indiquer. C'est qu'ils vont partir à la course, ils vont encercler l'animal à deux chiens, ils vont courir alentour pour monter un cylindre de fumée, de boucan de sable, dans le fond, puis ils vont le maintenir en place là pour qu'on puisse venir donner le dernier coup de grâce.
C'est incroyable à quel point c'est intelligent, ces animaux-là.
Ah oui, ils sont capables. Puis honnêtement, c'est résistant. Ici, ils prennent les Jack Russell parce que c'est une des races de chiens qui peuvent aller, ils peuvent faire très long dans une journée sans boire d'eau. Ils sont excessivement tolérants. Puis ici, c'est très important parce que de l'eau n'a pas partout.
Non, c'est ça. Hey, écoute, je te souhaite un beau périple là-bas en Afrique. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Je sais que tu es sur le point d'aller te coucher là, à 18h30. Il fait noir. Puis,
Non, on est sur le drink, ils sont tous au bar.
Visiblement, il n'y a plus d'amaroula. Il n'y a plus de fruits pour en faire. Fait que ça ne doit pas être facile la vie.
On en a dans les bouteilles. On dit qu'on est correct.
Martin, pour les gens qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, on fait quoi?
Si vous trouvez tout simplement Aventure Chasse-Pêche sur les réseaux sociaux ou Martin Bourget ou Kid Nadeau-Mercier, vous allez voir tout ce qui se passe. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. C'est beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Sinon, tous les jeudis 21h sur les ondes de Télémag, sur YouTube et sur les réseaux sociaux.
Sinon, demain, bonne chance pour la chasse. Fais attention, Crocodile, ça a l'air sa mort, pas pire.
Bon, essayez de t'envoyer des photos.
Envoyez-moi des vidéos.
Correct, ça.
Salut.
Hey, tu sais que, juste comme ça, le dernier qui a fait un Crocodile ici, c'est Patrick Daigle. Et quand il était sur le bord de la rivière, une fois qu'il était décédé, le crocodile, ils ont fait des photos de niaiseux là, à se mettre la tête entre les dents, etc. À un moment donné, il se recule, il continue à filmer. Le crocodile, il a rouvert les yeux.
OK.
Ben voyons.
Tu peux-tu
freaker,
tu penses? Oui, c'est excessivement solide. Ça, c'est une anecdote qu'on va vous montrer en vidéo éventuellement. On est en train de le monter, mais c'est arrivé à Patrick Daigle, qui est celui qui s'occupe des groupes ici.
Il peut dire merci à la vie maintenant.
Il avait la tête entre ses dents pour faire des photos d'innocents.
Hey,
5 minutes après, le crocodile a rouvert les yeux. As-tu une idée de ce qui aurait pu arriver?
Ah non, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Merci, Pat. Merci, Martin.
Merci, Pat Martin. Là.
Parce qu'il parlait de Pat. Salut, Martin Bourget qui est en Afrique, présentement, plus précisément en Afrique du Sud, pour tourner un documentaire. Toujours le fun. Là.
C'est intéressant d'entendre aussi ce qu'il dit. Tu sais, tout tourne. Là. Il y a quelqu'un qui nous parlait, pendant que Martin nous parlait des éléphants qui vivent peut-être de l'anxiété, commencent à détruire la flore. Quelqu'un nous écrit, quand ils ont réintégré les loups autour de Yellowstone, ils ont commencé à sauver tout ce qui est flore aussi parce que les cerfs commençaient à affecter en fait ça.
Ouais.
Tout est un engrenage.
Exact.
C'est incroyablement intéressant.
Un beau système, la nature. Midi 53, on fait une courte pause. Après la pause, si tout va bien, on sera en mesure de jaser avec le grand chef de la nation, Huron Wendat. C'est le nouveau grand chef de la nation, Huron Wendat. C'est Pierre Picard qui sera avec nous.